Chapitre 11 Sauvetage.
Je me fiche de Kenneth,
rugit Brashen.
Retourne chercher Althea.
Pour le moment, elle est en sécurité là où elle est,
cria Parangon sur un ton de défi.
Je dois reprendre Kenneth. J'ai besoin de lui.
Brashen serra les dents. Si près tout à l'heure, et puis il les avait doublés à toute vitesse. L'envie de voir Althea, de savoir qu'elle était saine et sauve, l'obsédait, mais le navire entêté semblait décidé à les conduire à la mort. Chaque fois que Brashen reprenait confiance en Parangon, celui-ci détruisait ses espérances. Faisant fi du gouvernail, des ordres, il filait à la poursuite du vaisseau jamélien. Le serpent blanc bondissait et plongeait à leur proue comme un dauphin. Sur le gaillard d'avant, Mer se penchait sur la lisse comme si elle avait pu pousser le navire à aller plus vite. Ambre se dressait de toute sa taille, le vent fouettant ses cheveux. Ses yeux étaient élargis comme si elle écoutait une musique lointaine.
« Amorti au moins !»
suppliait Brashen.
« Laisse-les nous rattraper. On n'a pas besoin d'affronter seule toute la flotte jamélienne. »
Mais Parangon se précipitait aveuglément en avant. Brashen supposa que d'une façon ou d'une autre, le serpent blanc le guidait.
« Je ne peux pas m'attarder. Ils vont le tuer, Brashen. Il se peut qu'il le tue sur le champ. Il ne faut pas qu'il meure sans moi. »
Le ton était inquiétant. Brashen sentit qu'on frôlait légèrement son poignet. Et il baissa les yeux et découvrit la mère de Kenneth. Ses yeux pâles se fixèrent dans les yeux sombres de Brashen et exprimèrent toutes les paroles qu'elle ne pouvait plus prononcer. Impossible de repousser cette éloquente prière. Il secoua la tête à sa propre folie.
« Va alors »
cria-t-il soudain au navire.
« Lance-toi en aveugle. Livre-toi à la démence qui te possède une bonne fois pour toutes. »«
J'y suis obligé !»
riposta Parangon.
« Nous y sommes tous obligés, »
renchérit Ambre à mi-voix. Brashen s'en prit à elle, ravi d'avoir une nouvelle cible.
« Je suppose que c'est le destin que vous avez prédit, »
dit-il sur un ton de défi et de dépit. Elle lui adressa un sourire éthéré.
« Oh oui, en effet. Et pas seulement le destin de Parangon. Le mien, le vôtre. »
Elle écarta le bras.
Et celui du monde.
Kenneth ne s'était jamais trouvé dans pire situation. Sans béquille, sans armes, il était assis sur le pont tandis que les matelots indifférents passaient devant lui. Les quelques hommes qui avaient abordé avec lui n'étaient plus que des cadavres sanglants. Il était vain de tirer satisfaction des Jaméliens qu'ils avaient fait prisonniers. Le gouverneur était inerte, recroquevillé derrière lui. Il était indemne, mais évanoui. Kenneth lui-même avait été malmené, mais il ne perdait pas de sang. Il était assis près du rouf. Il se refusait à lever les yeux vers ses gardes. Il en avait assez de leurs mines railleuses et de leurs sourires goguenards. Ils avaient pris beaucoup de plaisir à lui arracher sa béquille et à le faire tomber. Il avait mal aux côtes après leurs coups de botte. Il était aussi sidéré par le brusque revirement de fortune que par ses blessures. Sa chance l'avait-elle quitté? Comment cela pouvait-il lui arriver à lui, le roi Kenneth des îles des pirates? Tout à l'heure, il détenait le gouverneur de Jamélia et il avait entre les mains le traité signé qui le reconnaissait comme le roi des îles des pirates. Il avait touché son destin, l'avait frôlé. Et maintenant ceci. Réduit à l'impuissance, vaincu comme jamais depuis son enfance. Il chassa cette pensée. Rien de tout cela ne serait arrivé si Eta et Yémin l'avaient suivi comme ils auraient dû. Leur courage et leur foi en sa chance auraient dû égaler les siens. Il leur dirait quand il viendrait le rechercher. Derrière lui, il sentit le gouverneur remuer et revenir de son évanouissement. Il gémit faiblement. Kenneth lui donna un discret coup de coude.
« Silence !» dit-il à voix basse. « Asseyez-vous. Tâchez de prendre l'air assuré. Plus vous avouerez votre faiblesse, plus ils vous feront de mal. J'ai besoin que vous restiez entier. »
Le grand seigneur gouverneur de Jamelia s'assit, renifla et jeta autour de lui un regard apeuré. Sur le pont, les hommes couraient dans un vacarme assourdissant et s'acharnaient à forcer l'allure du navire. Deux hommes les gardaient, l'un armé d'un long couteau, l'autre d'une méchante matraque qui avait laissé le bras gauche de Kenneth tout endormi.
« Je suis perdu, tout est perdu !»
Le gouverneur se balançait.
« Arrêtez !» siffla Kenneth.
Il poursuivit à voix basse.
« Pendant que vous pleurnichez et gémissez, vous ne pensez pas. Regardez autour de vous. Maintenant, plus que jamais, vous devez être le gouverneur de Jamelia. Ayez l'air d'un roi si vous voulez qu'on vous traite comme tel. Tenez-vous droit. Ouvrez l'œil et prenez l'air indigné. Conduisez-vous comme si vous aviez le pouvoir de les tuer tous. »
Kenneth lui-même avait suivi ses propres conseils. Si les Jaméliens avaient enlevé le gouverneur pour se débarrasser de lui, ils l'auraient abattu sur le coup. Qu'ils soient vivants tous les deux signifiait que le gouverneur avait une certaine valeur à leurs yeux. Si c'était le cas et s'il éprouvait ne serait-ce qu'une once de gratitude à l'égard de Kenneth, il pourrait peut-être préserver la vie du pirate. Il affermit sa voix et insuffla de la conviction dans son chuchotement.
« Ils vont le payer de nous avoir traités ainsi. Mes navires les poursuivent. Regardez vos ravisseurs et ne pensez qu'à la façon dont vous allez les faire mourir. »
« Lentement, »
dit le gouverneur d'une voix qui tremblait encore.
« Ils mourront lentement, »
dit-il avec plus de fermeté.
« Ils auront tout le temps de regretter leurs bêtises. »
Il parvint à se redresser. Il se drapa dans la cape rouge et lança un regard mauvais aux gardes.
« La colère lui va bien, » songea Kenneth.
Elle chassait de son visage la peur et la puérilité.
« Mes nobles se sont retournés contre moi. Ils paieront pour cette trahison, eux et leur famille. Je détruirai leur maison, j'abattrai leur forêt, je brûlerai leurs champs. Jusqu'à la 10e génération, ils souffriront. Je connais leur nom. »
Un garde l'avait entendu. Il poussa le gouverneur du pied avec dédain.
« La ferme. Tu seras mort avant la fin de la journée, qu'ils ont dit. Ils veulent seulement que tout le monde soit témoin. Liés par le sang, qu'ils appellent ça. »
Il eut un large sourire qui découvrit des dents de marin.
« Toi aussi, roi Kenneth. Peut-être qu'ils me laisseront me charger de toi. » « J'ai perdu deux copains avec tes maudits serpents. »«
Kenneth !»
C'était le rugissement même du vent, le cri d'un dieu offensé. Le garde qui les injuriait fit volte-face pour regarder vers l'arrière. Un terrible frisson parcourut Kenneth. Il n'avait pas besoin de regarder. C'était la voix de son navire disparu qui l'appelait pour venir le rejoindre. Il essaya de se lever, mais sans béquille, ce n'était pas commode.
« Aidez-moi !»
ordonna-t-il au gouverneur. À tout autre moment, le jeune souverain aurait probablement dédaigné l'ordre, mais le nom du pirate résonnait encore dans toutes les oreilles. Il se leva promptement et lui tendit une main. Les hommes sur le pont avaient ralenti leur travail pour regarder en arrière. Une expression d'horreur apparut sur quelques figures. Kenneth se hissa debout en s'appuyant sur la frêle épaule du gouverneur et chercha d'un œil égaré le navire fantôme. Il le découvrit qui fonçait vers eux sur tribord. C'était impossible, mais c'était Parangon, transfiguré dans la mort en un jeune homme. Un serpent blanc fantomatique cabriolait devant le navire. Plus rapide que le vent, à une vitesse surnaturelle, la vive nef vint bord à bord avec le vaisseau jamélien. Pour compléter le cauchemar, sa mère se tenait sur le gaillard d'avant, ses cheveux blancs flottant au vent. Elle le vit. Elle tendit vers lui une main implorante. Une déesse dorée était à côté d'elle et un mort commandait l'équipage. La langue de Kénith se colla à son palais. Les fantômes de son passé arrivaient à une vitesse impossible à la hauteur du vaisseau jamélien.
« Kénith !»
répéta la voix tonitruante.
« Je viens pour toi !»
Parangon mit dans son intonation une fureur froide.
« Rendez-moi, Kénith, je l'ordonne, il est à moi !»« Rendez-le !»
La voix de Vivacia éclata dans le ciel, venant de bâbord. Kénith ne pouvait la voir, mais il savait qu'elle était proche. Son cœur se serra douloureusement. Elle pouvait le sauver.
« Prends-toi, navire jamélien, ou on t'envoie par le fond !»
Le navire jamélien était acculé. Malgré les ordres frénétiques de son capitaine qui hurlait qu'on dévente les voiles, il ne pouvait pas amortir son air. Le parangon rangea raide près de la proue. Le vaisseau jamélien vira, mais ce ne fut pas suffisant. Avec un terrible craquement suivi par les gémissements débordés, il enfonça la coque de parangon. Le bois sorcier absorba le choc, mais des éclats volèrent du vaisseau jamélien qui dévira, ayant perdu la maîtrise de sa manœuvre. La toile claquait follement. Soudain, il y eut un autre choc, un grincement. La Vivacia venait donner de l'autre bord. C'était une manœuvre imprudente qui pouvait faire couler les trois navires. L'air cassé, ils tournaient lentement en rond. Les matelots sur les ponts rugissaient, affolés. Les gréements menaçaient de s'en mêler. De chaque bord, le bouffon et la Marietta les doublèrent pour retenir les autres bâtiments jamaéliens qui y approchaient. Sous Kénith, le pont vibrait encore du choc quand les grappins des vives nefs y mordirent. Des deux bords, les détachements d'abordage bondirent par-dessus les garde-corps. Le fracas des armes retentit autour d'eux, amplifié par les cris sauvages des vives nefs. Même le serpent ajouta sa trompette. Leur ravisseur était soudain acharné à défendre leur vie.
Gouverneur, il faut essayer de rejoindre la Vivacia.
Kénith empoignait toujours fermement l'épaule du gouverneur et lui criait à l'oreille.
Je vous guiderai,
assura-t-il, puisque privé de sa béquille, il ne pouvait s'y rendre seul.
Tuez-les!
Le beuglement du capitaine jamélien couvrit le vacarme du combat. C'était le cri furieux d'un homme désespéré.
Sur l'ordre du seigneur Kriath, ils ne doivent pas être pris vivants. Tuez le gouverneur et le roi pirate. Ne les laissez pas s'échapper.
Des corps encombraient toujours le pont de Vivacia. Le sang qui perlait et coulait sur le bois étanche rendait le pont glissant. Pour Malta, ce fut un vrai cauchemar de gagner l'endroit où Reine était tombée, avec les matelots qui se démenaient frénétiquement, les mains tendues et suppliantes des blessés et le mouvement accru du pont. Elle avait l'impression d'avancer pesamment, seule, à travers le chaos et la folie, jusqu'au bout du monde. Des pirates filaient comme des flèches autour d'elle pour obéir aux ordres de Yémin. Elle ne les entendait même pas. Reine avait fait tout ce chemin pour la chercher, et elle avait été trop lâche pour lui adresser un seul mot. Elle avait tant redouté de souffrir de son rejet qu'elle n'avait pas eu le courage de le remercier. Maintenant, elle avait peur d'être à la recherche d'un mort. Il gisait sur le ventre. Il fallait le dégager de dessous un autre corps. L'homme était lourd. Elle tirait, impuissante, pendant que tout autour d'elle, le monde s'agitait dans une course folle pour sauver Kénith. Personne, ni son frère ni sa tante, ne lui venait en aide. Elle sanglotait éperdument, affolée en continuant à tirer. Elle entendait les deux vives nefs crier. Des matelots qui couraient la contournaient pour l'éviter, indifférents.
Elle tomba sur les genoux dans le sang, appuya une épaule contre le mort, banda ses forces et le poussa pour dégager Rain.
Le spectacle affreux qu'elle découvrit la suffoqua. Inerte, il baignait dans son sang, ses vêtements en étaient imbibés.
« Oh, Rain! Oh, mon amour !»
Elle prononça les mots d'une voix rauque, ces mots qui étaient demeurés en elle, inavoués, depuis qu'ensemble ils avaient partagé la boîte à rêves. Sans se soucier du sang, elle se pencha pour l'enlacer. Il était encore chaud.
« Cela ne sera jamais !»
gémit-elle en le berçant.
« Jamais !»
C'était comme si elle avait perdu une seconde fois son foyer et sa famille. Dans les bras de Rain, elle le comprit soudain, et seulement dans ses bras elle aurait pu être de nouveau Malta. Avec lui mourait sa jeunesse, sa beauté, ses rêves. Tendrement, comme s'il avait pu encore sentir la douleur, elle le retourna. Elle verrait son visage une dernière fois. Elle regarderait dans ses yeux cuivrés, même s'il ne lui rendait pas son regard. C'était tout ce qu'elle aurait jamais de lui. De ses mains poisseuses de sang, elle dégagea le voile du col de la chemise, le souleva, l'ôta du visage. Une résille sanglante était imprimée sur la peau relâchée. Tendrement, elle l'essuya avec l'ourlet de sa cape. Elle se pencha, baisa la bouche figée, lèvre sur lèvre. Pas de rêve, pas de voile entre eux. Elle eut vaguement conscience que le monde de voile et de bataille continuait son vacarme autour d'eux. Que lui importait? Sa vie s'était arrêtée ici. Elle effleura la ligne d'écaille sur son front, la peau grêlée comme une chaîne finement ouvrée sous son doigt.
« Rain !»
dit-elle à mi-voix.
« Oh, mon Rain !»
Ses paupières se soulevèrent à demi. Des étincelles de cuivre brillèrent. Pétrifiée, elle le regarda fixement. Il cligna deux fois les yeux, puis les ouvrit tout à fait. Il lui fit une grimace. Il eut un hoquet de douleur en portant sa main droite à sa manche gauche trempée. « Je suis blessé, » dit-il hébété. Elle se pencha davantage. Le cœur lui battait dans les oreilles. Elle s'entendit à peine prononcer
« Rain !» « Ne bouge pas. Tu perds beaucoup de sang. Laisse-moi m'occuper de toi. »
Avec une assurance qu'elle était loin de ressentir, elle commença à défaire la chemise. Elle n'osait pas espérer. Elle n'espérait rien, non. Elle n'osait même pas prier qu'il vive, qu'il l'aime. Ses espoirs-là étaient trop grands. Ses mains tremblantes ne pouvaient défaire les boutons. Elle déchira la chemise, écarta l'étoffe, s'attendant au désastre.
« Tu es indemne !»
s'exclama-t-elle.
« Ça soit loué !»
Elle promena une main inquiète sur la poitrine de bronze lisse. Les écailles ondulaient sous ses doigts et étincelaient dans la pâle lumière d'hiver.
« Malta !»
Il plissa les yeux comme s'il pouvait enfin distinguer qui était agenouillé près de lui. Dans sa main droite, pleine de sang, il saisit les mains de Malta et les écarta, le regard rivé sur son front. Il la lâcha, les yeux écarquillés. Dévorée de honte et de souffrance, Malta ne détourna pourtant pas le regard. Comme poussé par un désir irrésistible, il leva une main. Mais il ne lui toucha pas la joue comme elle l'avait espéré. Il porta les doigts à la cicatrice protubérante et la suivit jusqu'aux cheveux. Des larmes brûlaient les yeux de Malta.
« Couronnée ? »
murmura-t-il. « Mais comment est-ce possible ? » Crêtée comme la reine des anciens sur les vieilles tapisseries. Les écailles rouges commencent à se voir.
Oh, ma beauté, ma dame, ma reine, Tintaglia avait raison. Tu es seule faite pour porter les enfants que nous aurons. Ses paroles étaient incompréhensibles, mais peu importait. Il y avait sur le visage de Rein acceptation, respect mêlé d'admiration. Ses yeux erraient inlassablement sur elle, émerveillés, ravis. Tes sourcils aussi, même tes lèvres. Tu commences à avoir des écailles. Aide-moi à me lever. Il faut que je te voie tout entière. Il faut que je te serre dans mes bras pour être sûr que c'est bien réel. Je suis venu de si loin. J'ai tant rêvé de toi.
Tu es blessée, protesta-t-elle. Il y a tellement de sang, Rein.
Ce n'est pas le mien, je crois. Il porta la main à sa tête. J'ai été assommé et j'ai reçu un coup d'épée dans le bras gauche. À part ça, il bougea avec lenteur en gémissant. J'ai simplement mal partout. Il ramassa les pieds, se mit sur les genoux et réussit à se relever laborieusement. Elle se redressa avec lui en le soutenant et il se frotta les yeux.
Mon voile !
S'exclama-t-il soudain. Alors il baissa la tête vers elle. Elle n'aurait jamais cru qu'une joie pareille puisse rayonner sur un visage d'homme.
« Tu vas m'épouser alors ? »
demanda-t-il incrédule et radieux.
« Si tu veux bien de moi tel que je suis. »
Toute droite, elle opta pour la vérité. Elle ne pouvait le laisser se précipiter là-dedans aveuglément en ignorant ce que les autres pourraient chuchoter plus tard sur son épouse.
« Rein, il faut d'abord que tu en saches suffisamment sur moi. »
À cet instant, Vivacia cria quelque chose à propos de reddition. Peu après, un choc terrible les projeta sur le pont. Rein poussa un cri de douleur mais roula sur elle pour la protéger. Le navire frémit sous eux, il la prit dans ses bras. Il resta allongé à côté d'elle en la tenant serrée de son bras valide pour qu'ils résistent tous les deux aux coups du monde qui les entourait. Alors que s'élevaient les clameurs des matelots et le fracas d'une nouvelle bataille, il lui cria à l'oreille.
« La seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est que je t'ai à moi, maintenant. »
Yémin savait commander. Au milieu de tout le reste, alors qu'Althea se démenait avec les autres pour obéir à ses ordres, elle en comprit la logique. Elle vit autre chose, quelque chose qui allait au-delà de l'approbation qu'elle pouvait lui accorder. L'équipage avait confiance en lui. Yola le second ne discutait pas sa compétence ni son autorité comme remplaçant de Kenith. Etta non plus. Vivacia s'en était remise à lui sans réserve. Althea constatait avec jalousie la communication réciproque qui liait Vivacia et Yémin. Aussi naturelle que l'eau courante, l'échange passait au-dessus d'elle. Simplement, facilement, ils se transmettaient renseignements et encouragements. Ils ne l'excluaient pas. Cela passait simplement au-dessus d'elle, comme une conversation d'adulte passe au-dessus de la tête d'un enfant. Le petit prêtre, chétif comme un gamin, était devenu ce jeune homme frêle mais plein d'énergie qui criait des ordres avec une voix d'homme. Elle savait, et elle s'en sentait coupable, que son propre père n'avait pas discerné cette aptitude en Yémin. Dans le cas contraire, Efron Vestritz serait opposé à ce que Kefria l'envoya au monastère. Son propre père avait eu l'intention de l'utiliser comme une sorte de pis-aller, en attendant que Selden, le cadet plus hardi, ait grandi. Seul Kenith l'avait vu, cette qualité, et l'avait encouragé. Kenith, le violeur, était d'une certaine façon le chef que Yémin vénérait presque et le guide qui lui avait permis de prendre sa place sur le pont et de commander. Les pensées se bousculaient dans sa tête, aussi rapides que le vent qui poussait les voiles, piétinant ses émotions comme les matelots foulaient le pont de leurs pieds nus. Elle mit toute sa rage à aller une manœuvre. Elle haïssait, elle exécrait Kenneth. Plus encore que de le tuer, elle avait besoin de le confondre publiquement. Elle voulait lui arracher l'amour et la loyauté que lui vouaient ses disciples, de la même manière qu'il lui avait arraché sa dignité et son intimité. Elle voulait lui rendre ce qu'il lui avait fait, lui enlever quelque chose qu'il ne regagnerait jamais. Le laisser désemparé d'une façon qui n'obéissait à aucune logique. Elle ne voulait pas blesser ces deux-là, son neveu et son navire, mais elle avait beau les aimer tous les deux, elle ne pouvait se détacher de ce que Kenneth lui avait fait. C'était pire encore depuis qu'elle savait Brashen en vie. Chaque fois qu'elle l'apercevait sur le pont de Parangon, la joie qui la faisait tressaillir était ternie par la crainte. La perspective de tout lui dire gâtait le plaisir qu'elle se faisait de leur retrouvaille. Brashen comprendrait-il tout? Elle ne savait pas ce qu'elle redoutait le plus. Qu'il en soit enragé, comme si Kenneth l'avait volée, ou qu'il la rejette parce qu'elle était souillée, ou qu'il minimise la chose, la considérant comme une mauvaise expérience qu'elle devrait surmonter. Comme elle ignorait sa réaction, elle eut peur soudain de ne pas le connaître du tout. À certains égards, l'amour franc et la confiance entre eux étaient encore récents. Résisterait-il à cette vérité? Elle sentait la colère gronder en elle en se demandant si Kenneth avait détruit aussi cela. Ensuite, elle n'eut plus le temps de penser. Ils étaient bord à bord avec le navire jamélien. Althea entendit un bruit terrible alors qu'il heurtait quelque chose. Le parangon, probablement, songea-t-elle avec angoisse. Son pauvre navire fou s'était jeté dans cette bataille pour l'amour de Kenneth. Le vaisseau jamélien apparut plus grand et plus proche et...
« Accrochez-vous !»
cria quelqu'un. Elle comprit trop tard que c'était un avertissement quand elle glissa à travers le pont, roula, dérapa. Elle était indignée. Comment Yémin osait-il mettre ainsi son navire en péril? Elle sentit alors dans sa chair plaquée contre le bois sorcier à quel point le navire lui-même avait été acharné à cette poursuite et à cette capture. Vivacia avait choisi le danger. Yémin avait fait ce qu'il avait pu pour l'atténuer. Althea heurta un corps sur le pont. Avec un frisson, elle se releva. Le bord du vaisseau jamélien était aussi proche qu'un appontement. Elle vit Etta sauter d'un pont sur l'autre, poignard en main. Yémin avait-il ouvert la voie? Elle ne l'apercevait nulle part. À quatre pattes, elle ramassa le couteau que le cadavre tenait toujours. Peu après, elle prenait pied sur le vaisseau jamélien. La bataille faisait rage autour d'elle, trop confuse pour qu'elle puisse saisir ce qui se passait. Où était son neveu? Un matelot jamélien s'élança au devant de sa lame hésitante. Althea para maladroitement les deux premiers coups, alors surgit de nulle part, une autre lame lui lacéra la poitrine. Il se retourna avec un cri et s'écarta d'elle en titubant. Jack était près d'elle, soudain, avec le sourire de démente qu'elle avait dans le danger.
« Tu crois que si je sauve le gouverneur, il m'épousera? J'aimerais assez être une gouverneresse ou quelque chose comme ça. »
Avant qu'Althea ait pu répondre, le pont se mit à tanguer et fit vaciller les combattants. Elle se raccrocha à Jack.
« Qu'est-ce que c'est ? »
demanda-t-elle. « Les vaisseaux jaméliens utilisaient-ils leurs catapultes contre les navires bloqués ?» Elle eut la réponse dans le cri forcené d'un matelot.
« Capitaine ! Capitaine ! Le maudit serpent a arraché notre gouvernail. On embarque de l'eau. Nous ferions mieux de prendre ce que nous sommes venus chercher et de décamper de ce mouille-cul. »
suggéra Jack joyeusement. Elle plongea dans la mêlée en se frayant un passage sans distinguer ses adversaires. Althea la suivit, ne faisant guère que protéger leurs arrières.
« Je crois que j'ai vu Etta. Ah, voilà !»
s'exclama Jack.
« Par le souffle de ça et les couilles d'elle !»
jura-t-elle.
« Ils sont par terre en sang tous les deux !»
Le capitaine jamélien avait appris à ses hommes à obéir sans poser de questions. Chose admirable tant que ça ne se retournait pas contre vous. Mû par une obéissance aveugle, ils s'avancèrent vers Kenneth. Ils l'auraient tué sans hésitation avec le gouverneur sur l'ordre de leur capitaine. À l'évidence, soit le gouverneur restait entre leurs mains, soit il fallait qu'il meure. La valeur qu'accordait le pirate à Kosgo monta en flèche. Il le garderait en vie et en son pouvoir. Évidemment, c'était pour cette raison qu'il représentait une grande menace pour les Jamaéliens et qu'en conséquence, il leur était des plus précieux. Ils avaient réchappé de l'attaque des serpents et risqué tout pour le capturer. Kenith le reprendrait, et alors il paierait beaucoup plus chèrement qu'il ne l'avait imaginé. Vivacia était à couple. Il lui fallait seulement les retenir quelques minutes jusqu'à l'arrivée d'Eta ou de Yéma.
« Mettez-vous derrière moi !»
ordonna-t-il au gouverneur et il le poussa rudement en arrière. Il raidit la main sur le rouf pour éviter de basculer. Il fit un bouclier de son corps pour le Magnadon tremblant. De sa main libre, il releva précipitamment sa cape. Les hommes ne s'arrêtèrent pas. Il esquiva le premier coup en lançant sa cape autour de la lame et en la repoussant. Il fit un geste vif pour la saisir et l'arracher de la main de son propriétaire, mais elle glissa d'entre les plis épais du tissu. Le second comparse était un solide gaillard, plus charron comme d'épée. Sans finesse ni ruse, il s'approcha et plongea sa rapière au travers du corps de Kenith et du gouverneur et les cloua tous les deux.
« Je les ai eus tous les deux !»
s'exclama-t-il avec satisfaction. Kenith remarqua, stupéfié, que la chemise déchirée de son meurtrier était tachée de graisse. L'homme retira violemment son épée des corps et se retourna pour faire face au détachement d'abordage. Kenith et le gouverneur tombèrent en même temps. Il s'écroulait, mais il n'y croyait pas. C'était impossible. Cela ne lui arrivait pas, pas à lui. Un cri suraigu, comme celui d'un lapin acculé, s'éleva derrière lui. Le cri s'émoussa et devint douleur. Elle se rompit à l'intérieur de lui, se répandit dans tout son corps. La douleur était blanche, d'un blanc intolérable et si intense que ce n'était pas la peine de hurler. Après ce long moment, à ce qu'il sembla, le pont arrêta sa chute. Il agrippa sa poitrine à deux mains. Le sang ruisselait entre ses doigts. Puis il eut un goût de sang, son propre sang, salé et sucré, dans la bouche. Il avait déjà goûté du sang. Ygrotte adorait le gifler. Le goût du sang dans sa bouche, toujours signe avant-coureur d'une douleur pire.
« Parangon !»
s'entendit-il appeler en haletant comme il l'avait toujours appelé quand la souffrance était insupportable.
« Je suis blessé, navire. Je suis blessé !»«
Continue à respirer, Kenith !»
La petite voix à son poignet était pressante, presque panique.
« Tiens bon, ils arrivent. Continue à respirer !»
Imbécile de charme. Il respirait. Pas vrai? Il baissa les yeux mécontent. À chaque pénible respiration, le sang jaillissait de ses lèvres. Sa belle chemise blanche était fichue. Eta lui en coudrait une autre. Il goûtait le sang, il le sentait. Où était Parangon? Pourquoi ne prenait-il pas sa souffrance? Il essaya de l'appeler en répétant les anciens mots de son navire.
« Reste tranquille, mon garçon, »
murmura-t-il comme Parangon disait toujours.
« Reste tranquille, je prends ça sur moi, donne-moi tout, ne t'occupe que de toi. »«
Il est vivant !»
s'écria quelqu'un. Il tourna les yeux vers la voix, priant pour être délivré, mais la figure qui le scrutait était celle d'un Jamaélien.
« Tu rigoles, Flad, tu l'as même pas tué !»
Avec efficacité, l'homme planta sa dague dans la poitrine de Kenith et l'en retira.
« Je l'ai eu cette fois !»
La voix satisfaite suivit Kenith dans les ténèbres. Ils arrivaient trop tard. Yéma poussa un cri d'angoisse et tua l'homme qui venait de poignarder son capitaine. Il agit sans y penser et sans le moindre remords. L'équipage de la Vivacia qui l'avait suivi leur ouvrit un passage sur le pont encombré. Eta s'élança devant Yéma et se jeta à genoux près de Kenith. Elle lui toucha le visage, la poitrine.
« il respire !»
s'écria-t-elle, saisie d'une joie angoissée.
« Aide-moi, Yéma, aide-moi. Il faut qu'on le ramène à Vivacia. On peut encore le sauver. »
Il savait qu'elle se trompait. Il y avait beaucoup trop de sang. Un sang épais et noir qui jaillissait encore du corps. On ne pouvait le sauver. Le mieux qu'on pouvait faire, c'était de le ramener pour qu'il meure chez lui, et il faudrait faire vite.
Il se pencha et mit le bras de son capitaine sur ses épaules. Éta le prit de l'autre côté en lui parlant tout bas. Le fait qu'il ne crie pas de douleur quand ils le soulevèrent prouva à Yéma qu'il était presque mort. Il fallait se dépêcher. Les Jaméliens étaient battus, mais pas pour longtemps. Le gouverneur était sous Kénith. Quand ils soulevèrent le pirate, il revint à lui dans un spasme, hurla et se roula en boule.
« Non, non, ne me tuez pas, ne me tuez pas !»
bredouillait-il. Dans sa volumineuse cape rouge, on aurait dit un enfant qui se cache sous les couvertures.
« Qu'il est assommant !»
marmonna Yéma pour lui-même, puis il se mordit la langue, croyant à peine avoir prononcé ces mots. Alors qu'il se mettait en marche avec Kénith, il cria à l'équipage
« Qu'on emmène le gouverneur !»
Jack le dépassa d'un bond. En se penchant, elle prit Cosgo dans ses bras et le chargea sur ses épaules.
« Allons-y »
déclara-t-elle sans se soucier de ses cris. Althea, à ses côtés, menaçait les Jaméliens avec une épée et couvrait Jack. Yéma surprit un éclair dans ses yeux sombres et furibonds. Il se força à l'indifférence. Il fallait qu'on ramène Kénith sur son navire. Si seulement elle avait pu comprendre que, en dépit de ce que le pirate lui avait fait, il y avait encore un lien entre lui et son capitaine, il aurait bien voulu le comprendre lui-même. Ils traversèrent le pont au pas de course. La jambe et le pilon de Kénith traînaient derrière eux, laissant un sillage informe et sanglant. Quelqu'un saisit les jambes et les aida à franchir les garde-corps.
« On se démarre !»
cria-t-il à Yola dès qu'Althea et les autres eurent regagné le pont de la Vivacia. Ils se retournèrent pour frapper de droite et de gauche les Jaméliens qui cherchaient à aborder, bien décidés à leur reprendre le gouverneur ou au moins son corps. Les navires commencèrent à s'écarter l'un de l'autre. Un Jamélien fit un saut forcené et tomba dans l'intervalle qui s'élargissait. Leur navire se vautrait à présent. Quoi qu'ait fait le serpent au gouvernail, les cales étaient inondées. Le même serpent les observait avidement, placé juste sous le canot qu'ils essayaient de rapprocher. Yéma se détourna du spectacle.
« Yéma, amène-moi Kénith !»
héla Vivacia, puis d'une voix plus forte.
« Parangon, Parangon, nous l'avons, Kénith est ici !»
Yéma échangea un regard avec Éta. Le pirate était suspendu entre eux, silencieux. Le sang dégouttait de sa poitrine et formait une flaque sur le pont. Les yeux d'Éta étaient larges et noirs.
« Au gaillard d'avant !»
dit Yéma à mi-voix, puis il cria à l'équipage.
« Il faut s'éloigner du navire jamélien. Il est en train de couler. Yola, dégage-nous avant que la flottille nous coince. »« C'est un peu tard pour ça !»
annonça Jack avec entrain en lâchant le gouverneur sur ses pieds. Althea le retint par le bras pour l'empêcher de tomber. Et il suffoquait d'indignation. Jack le prit par la chemise, la déchira, elle examina la blessure sombre d'où le sang s'écoulait lentement.
« Je ne crois pas qu'un organe vital soit atteint. Kénith est mort à votre place. Mieux vaut descendre et vous allonger en attendant qu'on ait le temps de s'occuper de vous. »
Avec désinvolture, elle déchira un pan de la chemise et le lui tendit.
« Tenez, appuyez avec ça, ça va diminuer l'écoulement du sang. »
Le gouverneur regarda le chiffon qu'elle lui avait fourré dans la main. Puis il baissa les yeux sur sa blessure. Il lâcha le chiffon, pris de faiblesse, et flageola sur ses jambes. Althea le soutenait fermement, Jack lui saisit l'autre bras en secouant la tête. Elle tourna les yeux vers Althea. Celle-ci suivait Yéma du regard. Le bras de Kénith était passé autour des épaules de son neveu. Le bras de Yéma lui entourait la taille, Éta et lui continuaient à traîner le pirate. Elle serra les mâchoires. Cet homme l'avait violée et Yéma avait pourtant risqué sa vie pour lui. Le gouverneur avala une goulée d'air.
« Malta !»
gémit-il comme un enfant aurait crié « Maman !»«
Je perds mon sang, je me meurs. Où êtes-vous ?»«
Bonne question, » pensa Althea. « Où était sa petite nièce ?» Elle parcourut le pont du regard, puis arrêta les yeux, ébahis sur Malta et Reyn, qui peinaient à faire descendre un pirate blessé. Le bras gauche de Reyn était enveloppé d'un épais bandage blanc. Il n'était pas voilé et la tête de Malta n'était pas couverte. Sa cicatrice luisait, toute rouge au soleil. Althea la vit se retourner et adresser quelques mots brefs à Rein qui hocha la tête sans hésitation. Il passa le bras autour de l'homme qu'ils aidaient et il le descendit tandis que Malta se précipitait vers le gouverneur. Mais ce fut à Althea qu'elle adressa ses premiers mots.
« Rein me trouve belle? Tu peux croire ça? Tu sais ce qu'il a dit sur mes mains? Elles vont être recouvertes d'écailles jusqu'au coude probablement. Il prétend que si je frotte la peau morte, je verrai les écailles rouges qui commencent à percer. Il me trouve belle !»
Les yeux de sa nièce brillaient de joie tandis qu'elle débitait ses paroles à Althea. Y avait-il plus que de la joie? Althea se pencha en avant, incrédule. Rein avait raison. Malta avait un éclat du désert des pluies dans les yeux maintenant. Stupéfiée, elle porta la main à sa bouche. Malta ne parut pas remarquer le geste. Elle passa le bras autour du gouverneur, l'air subitement inquiète.
« Vous êtes blessé ? »
s'exclama-t-elle surprise.
« Je croyais que vous étiez seulement... Oh là là, eh bien, venez, nous allons vous descendre et nous occuper de ça. Rein, Rein, j'ai besoin de toi. »
Avec force cajolerie, Malta entraîna le gouverneur de Jamelia. Althea se détourna du spectacle qu'offrait le jeune homme des pluies dévoilées qui se hâtait de répondre à l'appel impérieux de sa nièce. Elle donna un coup de coude à Jack qui écarquillait les yeux.
« Viens !»
dit-elle. Elles gagnèrent précipitamment le gaillard d'avant en suivant la trace sanglante de Kenneth. Les perles et les flaques de sang lui parurent bizarres. Puis elle comprit brusquement. Le bois sorcier les refusait. Le sang de Kenneth restait en surface, comme tout le sang répandu aujourd'hui. Perplexe, elle essaya de saisir ce que cela pouvait signifier. Vivacia rejetait-elle le pirate mourant? Elle sentit l'espoir renaître. Mais l'espoir tourna bientôt à l'effarement quand elle fut douchée par une énorme éclaboussure.
« Ce n'est pas passé loin !»
s'exclama Jack. La pierre de l'est suivante heurta la coque de Vivacia. Le bois dur résonna sous le choc et le navire frémit. Althea fit volte-face, cherchant des yeux un espace entre les navires qui les cernaient. Il n'y en avait pas. La Marietta et le bouffon étaient aussi pris au piège, quoi qu'ils fissent tout pour s'échapper. Une autre catapulte projeta sur eux une énorme pierre, alors que Parangon tournait autour de la proue d'un vaisseau jamélien et apparaissait.
Éta, Éta.
Son chuchotement haletant parvenait à peine à ses oreilles.
Oui, mon chéri, je suis là. Chut, chut.
Une autre éclaboussure fit tanguer le navire.
Nous t'emmenons près de Vivacia. Tout ira bien.
Elle resserra sa prise sur Kenneth alors que Yémin et elle le faisaient avancer à la hâte. Elle voulait être douce, mais il fallait qu'elle l'entraîne sur le gaillard d'avant. Vivacia pouvait lui prêter sa force. Elle le savait malgré le désespoir pétrifié qu'elle lisait sur le visage de bois de Yémin. Kenneth irait bien, il le fallait. Elle risquait de le perdre et tous ses doutes étaient balayés. Qu'importait ce qu'il avait fait aux autres? Il l'avait aimé, il l'aimait comme personne ne l'avait aimé.
« Je n'irai pas bien, ma chérie. »
Sa tête pendait sur sa poitrine. Ses boucles noires brillantes lui voilaient la figure. Il toussa légèrement. Le sang jaillit. Elle ignorait comment il trouvait la force de parler. Son chuchotement entrecoupé était désespéré, pressant.
« Mon amour, prends l'amulette de bois sorcier à mon poignet. Porte-la toujours, jusqu'au jour où tu la transmettras à notre fils, à Parangon. Tu l'appelleras Parangon. Tu porteras l'amulette. »
« bien sûr, mais tu ne vas pas mourir. Chut, ménage tes forces. » Voilà l'échelle. C'est la dernière partie difficile, mon amour. Continue à respirer. Vivacia, Vivacia, le voilà. Aide-le, aide-le. »
Les hommes d'équipage et Yémin parurent si brutaux en le hissant sur le gaillard d'avant. Éta franchit l'échelle d'un bond et les précéda en courant. Elle retira sa cape et l'étendit sur le pont.
« Ici !»
cria-t-elle.
« Mettez-le ici !»« Non !»
dit Vivacia d'une voix tonitruante. La figure de Proust était tournée aussi loin que possible d'une torsion inhumaine. Elle tendit les bras vers Kenneth.
« Tu peux l'aider !»
Elle cherchait à être rassurée.
« Il ne va pas mourir !»
Vivacia ne répondit pas à sa question. Ses yeux verts étaient aussi profonds que l'océan quand ils rencontrèrent le regard d'État, aussi inexorable.
« Donne-le-moi »
répéta-t-elle à mi-voix. Un cri muet fit vibrer le cœur d'État. L'air ne pénétrait plus ses poumons. Elle sentit d'étranges picotements partout le corps, puis l'engourdissement.
« Donnez-le-lui »
finit-elle par dire. Elle ne sentit pas ses lèvres remuer, mais elle entendit les mots. Yéma et Yola soulevèrent Kenneth et le tendirent à Vivacia. Éta gardait la main du pirate serrée dans la sienne, tandis que la vive nef le prenait délicatement dans ses bras.
« Oh, mon amour !»
dit-elle en pleurant quand Vivacia le reçut. Alors la figure de proue se retourna et Éta dut lâcher la main pendante. Vivacia leva le corps inerte de Kenneth jusqu'à sa poitrine et le tint serré contre elle. Sa grande tête se pencha sur lui. Une vive nef pouvait-elle pleurer? Alors elle releva le menton et rejeta en arrière ses yeux noirs corbeaux. Une nouvelle pierre atteignit sa proue. Le navire tout entier vibra sous le choc.
« Parangon, dépêche-toi, dépêche-toi. Kenneth est à toi. Viens le prendre. » « Non !»
gémit Éta sans comprendre.
« Tu le livrerais à son ennemi? Non, non, rends-le-moi »
« Chut ! Il le faut !»
dit Vivacia doucement mais fermement.
« Parangon n'est pas son ennemi. Je le rends à sa famille, Éta !»
Elle ajouta doucement.
« Tu devrais aller avec lui. »
Parangon se rapprochait. Ses mains tâtonnaient à l'aveugle vers Vivacia.
« Ici, je suis ici »
appela-t-elle pour le guider. C'était une manœuvre insensée que d'accoster ainsi deux navires, proue à proue, a fortiori sous une pluie de pierres. Un projectile tomba dans l'eau et fit jaillir des éclaboussures qui les trempèrent tous les deux. Ils n'y prêtèrent pas attention. Soudain, les mains de Parangon se refermèrent sur Vivacia et tâtonnèrent jusqu'à Kenneth qu'elle tenait dans ses bras. Durant un moment, les deux vives nefs se balancèrent dans une étrange étreinte, le pirate entre elles deux. Puis, en silence, Vivacia déposa le corps inerte de Kenneth dans les bras tendus de Parangon. À la lisse, Éta observait le changement qui s'opérait sur la figure juvénile du navire. Il se mordit la lèvre inférieure, peut-être pour l'empêcher de trembler. Puis il souleva le corps. Les yeux bleu pâle de Parangon s'ouvrirent enfin. Il contempla longuement le visage du pirate, avec une avidité inassouvie depuis si longtemps. Puis, il le serra contre lui. Kenneth avait presque l'air d'un pantin dans l'étreinte de la figure de proue. Ses lèvres remuaient, mais Éta n'entendait rien. Le sang des blessures disparut rapidement au contact du bois de Parangon, absorbé immédiatement, sans laisser de traces. Alors il se pencha sur Kenneth et l'embrassa sur le crâne avec une tendresse inconcevable. Enfin, Parangon releva la tête. Il regarda Éta avec les yeux de Kenneth et sourit, un sourire d'une insupportable tristesse, empreint de paix et de plénitude. Une vieille femme sur le pont de Parangon s'efforçait d'atteindre le corps de Kenneth. Les larmes ruisselaient sur son visage et elle bredouillait des sons inarticulés, une terrible lamentation. Derrière elle, un grand homme brun se tenait les bras croisés. Il avait les mâchoires serrées, les yeux étrécis, mais il ne tenta pas d'intervenir. Il avança même de quelques pas pour aider à soutenir le corps quand Parangon le relâcha dans les bras ouverts de la femme. Ils l'étendirent avec précaution sur le pont de la vive nef.
« Maintenant, à toi !»
dit soudain Vivacia. Elle tendit les bras vers Eta qui se plaça entre les mains de la vive nef. Quelque part dans le noir, on battait le tambour. Le rythme était irrégulier, fort doux, s'assourdissait inexorablement jusqu'à la paix. Il y avait d'autres bruits, des cris de colère, mais ils n'avaient plus d'importance. Des voix familières lui parlaient à l'oreille. Yéma grommelait en s'adressant à lui et à quelqu'un d'autre.
« Sacré nom! Pardon, pardon, Kenith. Tu ne peux pas faire attention, non? Tiens-lui la jambe quand je soulève. »
De l'autre côté, Eta parlait.
« Chut! Ménage tes forces. Voilà l'échelle. C'est la dernière partie difficile, mon amour. Continue à respirer. »
S'il voulait, il pouvait les ignorer, ces voix. Mais dans ce cas, sur quoi se concentrer? Qu'est-ce qui était important maintenant? Il sentit que Vivacia le prenait. Oh oui, ce serait le mieux, ce serait le plus facile. Il se détendit et essaya de lâcher prise. Il sentait la vie s'écouler de lui, et il planait, attendant de disparaître. Mais elle le tenait toujours. Il était comme de l'eau dans ses mains en coupe. Elle refusait de le prendre.
« Attends !»
chuchota-t-elle.
« Attends encore un peu. Il faut que tu retournes chez toi, Kenith. Tu n'es pas à moi. Tu n'as jamais été à moi, nous l'avons toujours su. Il faut que tu redeviennes complet une dernière fois. Attends, encore un peu, attends !»
Puis elle appela.
« Parangon, dépêche-toi, dépêche-toi !» Kenith est à toi, viens le chercher.
Parangon ? La peur le transperça. Parangon était perdu pour lui, il n'était plus qu'un petit garçon fantôme, il l'avait tué. Son navire ne pourrait jamais le reprendre, il ne pourrait jamais rentrer chez lui. Parangon le jetterait à la mer, le laisserait se noyer comme il avait... Il reconnut le contact des grandes mains qu'il acceptait. Il aurait bien sangloté, mais il ne lui restait plus de larmes. Il essaya de remuer les lèvres, de dire tout haut à quel point il était désolé.
« Là, là !»
murmura quelqu'un pour le réconforter. Parangon ? Son père ? Quelqu'un qu'il aimait chuchota.
« N'aie pas peur. Je t'ai maintenant. » « Je ne te laisserai pas partir. Tu n'auras plus jamais mal. »
Alors il sentit le baiser qui l'absolvait sans jugement.
« Reviens-moi, »
implora-t-il.
« Reviens à la maison. »
Les ténèbres n'étaient plus noires. Elles devinrent argentées. Et alors que Parangon le tenait embrassé et le ramenait chez lui, il s'éteignit dans le blanc.